la découverte de la révolution commerciale chinoise.
Le monde change.
Des chefs d'entreprise français partent à la rencontre de la nouvelle Chine et cherchent à comprendre les réalités du développement actuel. Quels sont les résultats de ces expéditions stratégiques? Rencontre avec Emmanuel Krigel qui organise des séminaires d'immersion en Chine. Le monde change en partenariat avec Mathieu Dumonde, mardi à 11h10 TU.
RFI, la radio du monde.
Fréquence Terre, Arnaud Jouve.
Amis de la planète, bonjour. Chaque année, pour attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de l'environnement, une journée mondiale de l'environnement est célébrée dans plus d'une centaine de pays. Cette manifestation phare des Nations Unies, organisée en 2005 à San Francisco aux États-Unis, a retenu pour thème cette année « Ville verte, un plan pour la planète ». Un événement et une thématique que nous présente Klaus Töpfer, le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement.
More than ever, this year 2005.
Plus que jamais, cette année 2005 est de la plus haute importance pour l'ensemble du système des Nations Unies. Nous avons 60 ans et les Nations Unies ont été créées suite aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale à San Francisco. C'est donc une très belle opportunité de pouvoir célébrer cela cette année à San Francisco en retournant sur les lieux fondateurs. Retourner à San Francisco signifie retourner au centre d'une des grandes problématiques du monde entier qui est le processus d'urbanisation. Comment organiser ces grands conglomérats urbains? Plus de 50% de la population mondiale vit déjà dans des villes. Et cela va continuer de façon dramatique. Donc le thème, ville verte, un plan pour la planète qui a été choisi pour cette année, est bien plus qu'une thématique marginale. Ville verte, un plan pour la planète, pose la question: comment pouvons-nous rendre les villes viables de façon durable, compte tenu de la demande énergétique, de la pollution de l'air, de l'eau, du recyclage de l'eau? Donc, comment rendre les villes durables?
I'm very, very glad that the city of San Francisco.
Je suis très heureux que la ville de San Francisco ait fait tout son possible pour faire venir les plus grandes figures de l'environnement du monde entier pour discuter des défis des villes dans les politiques de développement durable. Ceci est un message pour le monde entier. Aujourd'hui, les villes font partie intégrante des problèmes à régler. Demain, il faut qu'elles fassent partie des solutions pour le développement économique, pour l'intégration sociale et pour les précautions environnementales. C'est une magnifique thématique pour l'année 2005.
Precaution, a wonderful topic for 2005.
En 1950, une seule ville comptait plus de 10 millions d'habitants, New York. D'ici 2015, 23 villes auront une population supérieure à 10 millions d'habitants et 19 d'entre elles se trouveront dans des pays en développement. Chaque jour dans le monde, 180 000 personnes viennent accroître les grands centres urbains confrontés à toutes sortes de problèmes de plus en plus complexes à résoudre et qui nécessitent des mesures permanentes dans tous les domaines pour faire face aux impératifs environnementaux. Pour illustrer ces préoccupations, écoutons Yves Contasso, le directeur environnement de la ville de Paris.
Pour une ville comme Paris, le développement durable, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Paris est une des villes les plus denses du monde. On a jusqu'à 40 000 habitants au kilomètre carré, une ville très polluée, une ville très bruyante, production de déchets considérable, de l'eau qu'il faut produire pour alimenter 2 millions d'habitants. Donc, c'est au cœur de nos préoccupations. Et donc, on a mis en œuvre tout un programme qui décline toutes ces activités dans tous les domaines. Un exemple, nous avons mis en place évidemment la collecte sélective, mais nous engageons un vrai programme de réduction des déchets à la source. En matière de pollution atmosphérique, nous changeons notre flotte, mais nous voulons aussi aller très loin y compris en réduisant de manière importante la circulation automobile. Nous avons établi le début de notre bilan carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, avec la volonté d'être pionnier en la matière pour une ville d'une telle importance. En matière d'eau, nous faisons la promotion de l'eau du robinet, bien meilleure à tous égards, beaucoup moins chère que l'eau en bouteille, avec toutes les conséquences en matière de déchets, etc. Nous mettons en place des corridors écologiques pour maintenir la biodiversité. Nous développons considérablement toute la végétalisation pour réduire les écoulements d'eau pluviale, pour réduire les conséquences en matière d'assainissement. Nous avons, 5 ans pratiquement avant les échéances européennes, mis en place une carte du bruit dynamique pour que on puisse là aussi agir sur tout le bruit routier, le bruit ferroviaire, etc. Donc, en permanence, nous travaillons sur ces questions, avec la volonté évidemment d'avoir un agenda 21, mais au-delà de la terminologie, c'est surtout d'être concret dans nos actions quotidiennes. Nous avons ainsi, même si légalement nous avons peu de moyens, mis en place un cahier des recommandations environnementales pour toutes celles et tous ceux qui bâtissent dans Paris, qui rénovent des logements, pour être au top, si j'ose dire, en matière de haute qualité environnementale. Et nous allons nous imposer à nous-mêmes toutes ces normes pour que nous soyons pointus. De même, nous développons l'alimentation bio au maximum, partout où c'est possible. Donc, à chaque fois, nous nous posons la question, quand nous agissons, comment pouvons-nous prendre en considération l'ensemble des dimensions environnementales, mais aussi sociales, comme dans nos appels d'offres, dans nos marchés, il y a des clauses sociales, environnementales, nous interdisons les bois exotiques, non certifiés. Donc à chaque fois, nous essayons, autant que faire se peut, d'être cohérents et d'avoir cette vision globale de la planète.
Alors, est-ce qu'il y a des grandes priorités? Est-ce qu'il y a vraiment des thèmes plus préoccupants que d'autres?
Les thèmes les plus préoccupants, évidemment, c'est ceux qui touchent à la fois la santé publique, les pollutions de toute nature, et en même temps, je dirais, la dimension la plus globale, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, et les deux d'ailleurs se rejoignant incontestablement. Dans Paris, l'essentiel de la problématique environnementale en matière de santé publique, c'est évidemment les pollutions d'origine de la circulation automobile, mais aussi le bâti, faut pas les sous-estimer, avec beaucoup de climatiseurs installés qui polluent énormément. Donc c'est là, sur cette thématique-là, que nous travaillons le plus étroitement et avec le plus de vigueur. Alors évidemment, c'est pas toujours très bien compris, y compris parce qu'il y a des lobbies en face qui n'ont pas très envie de voir ces questions traitées au fond et qui prétendent que simplement l'évolution technologique réglera tout ça. Mais sur la question des déplacements, avec un plan de déplacement que nous lançons pour Paris, on sera là encore assez en pointe sur la question de la pollution atmosphérique.
Aujourd'hui, l'espérance de vie des Français atteint 80 ans en moyenne, ce qui est un chiffre tout à fait extraordinaire en regard de la situation dans le reste du monde. Mais comme l'indiquait l'Organisation mondiale de la santé en avril dernier, cette espérance de vie en France est amputée de 8,6 mois uniquement du fait de la pollution atmosphérique. Dans les grandes villes françaises, des limitations de circulation et certaines mesures sont prises dès que le taux de pollution dépasse un certain seuil. Ça ne résout pas la pollution, mais cela tente de la limiter et permet de prévenir les populations. Encore faut-il pouvoir mesurer de manière plus ou moins fine ce qu'il y a dans l'air. Pour répondre à cette évaluation de la pollution, une équipe franco-allemande a mis au point des outils laser, encore expérimentaux, le LIDAR et le Terra Mobile, que nous présente Jérôme Kasparian, physicien du laboratoire de spectrométrie ionique et moléculaire de l'Université de Lyon, en charge de ce projet.
Le LIDAR, c'est une technique pour mesurer la pollution de l'air avec un laser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on émet des flashs laser dans l'air. Et cette lumière est diffusée, c'est-à-dire envoyée dans toutes les directions, et en particulier vers l'arrière. Et si on met à l'arrière un petit télescope et un détecteur, on va pouvoir voir la lumière qui revient en fonction du temps, donc en fonction de la distance, puisqu'on connaît la vitesse de la lumière, donc on sait le temps que la lumière a mis pour faire un aller-retour. Et donc, on va pouvoir faire une mesure en caractérisant la propagation des flashs laser dans l'air, une mesure de la pollution qui s'y trouve. Alors, l'avantage du LIDAR, c'est que comme on a un laser, qu'on peut le balayer, on peut bouger le faisceau laser et comme ça, on construit très facilement des cartes de pollution. La limitation du LIDAR, c'est que on choisit la longueur d'onde ou la paire de longueurs d'onde, plus exactement, en fonction du polluant qu'on veut mesurer. Ça veut dire, d'une part, qu'on peut mesurer un polluant à la fois, puisque chaque paire de longueurs d'onde va être caractéristique d'un polluant bien déterminé. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il faut qu'on sache à l'avance quel polluant on veut mesurer. Alors, sur ce deuxième point, dans le cadre de la pollution urbaine, c'est pas un très grand souci, parce que on sait tous que la pollution à l'ozone, au dioxyde d'azote, aux poussières, dans l'atmosphère urbaine, on sait que c'est ça qu'on va trouver. Par contre, dans un contexte où vous avez, par exemple, un incendie dans une usine chimique, là, vous avez un grand nombre de produits qui brûlent. Personne n'est capable de vous dire en temps réel quels sont les produits qui sont émis, et du coup, on ne sait pas quelle longueur d'onde choisir, et donc on ne peut pas les mesurer. Alors, la technique qu'on propose pour contourner cette limitation, c'est de faire un LIDAR avec un laser blanc. Eh bien, c'est la spécificité du Terra Mobile. Le Terra Mobile, c'est un laser qui produit des flashs extrêmement courts. La durée des flashs, c'est un dixième de millionième de seconde. Et comme ces flashs sont très très courts, l'énergie du flash est concentrée pendant un temps très très court. Et donc, il a ce qu'on appelle une puissance très élevée, tellement élevée que le flash laser va modifier l'air sur son passage. Et comme il modifie l'air, il va créer des nouvelles couleurs. C'est-à-dire que le laser est émis initialement dans l'infrarouge, il est invisible, et on obtient à l'arrivée, dans le ciel, un filament de lumière blanche où toutes les couleurs sont représentées.
Alors, qu'est-ce que ça va nous donner comme information?
Alors, comme on a toutes les couleurs, on peut enregistrer l'information sur l'ensemble des couleurs simultanément. Et donc, en l'analysant, en comparant avec des bases de données où les absorptions des différentes espèces chimiques sont répertoriées, on peut comme ça déterminer les composés qui sont présents dans l'air et leur concentration.
On peut imaginer que dans le futur, les grandes villes seront équipées d'appareils de ce type?
Alors, il faut bien voir que le Terra Mobile, on en est actuellement à développer des techniques de mesure. Ça peut devenir nettement plus praticable en routine dans les, 5 années qui viennent. Parce que d'une part, la technologie laser évolue et du coup, ces lasers vont devenir beaucoup plus simples à mettre en œuvre, beaucoup moins chers. Aujourd'hui, les coûts et la difficulté font que c'est vraiment un outil de recherche. Et l'autre aspect sur lequel on travaille également, c'est de respecter les normes de sécurité oculaire de façon à pouvoir l'utiliser en routine sans demander d'autorisation spécifique. Je pense que dans un premier temps, des applications type analyse d'urgence sur des situations de crise où les contraintes d'utiliser un outil plus complexe sont contrebalancées par un apport vraiment important du Terra Mobile sera probablement les premières applications. Je pense que des applications urbaines pour de la mesure de routine viendront dans un second temps.
Les technologies de pointe pourront nous apporter des outils utiles, mais ne résoudront pas tous nos problèmes si nous continuons à avoir des pratiques individuelles et collectives extrêmement destructrices de notre environnement. Alors, comment faire? Qui peut agir? Par exemple, au niveau des agglomérations, au-delà de nos changements de comportement individuels, l'État doit-il être le grand coordonnateur? Question posée à Monique Barbu, la directrice de la division Technologie, Industrie et Économie du Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
Les villes, clairement, aujourd'hui, quand on parle avec les autorités, on a tendance, nous, dans notre monde francophone, à penser autorité, c'est forcément des États. Mais vous avez des acteurs de la politique décentralisée qui sont au moins aussi importants que les États et surtout qui ont plus de facilité à prendre des mesures à l'échelle d'une ville ou d'une région qui peuvent avoir des effets bien plus bénéfiques que de passer par des systèmes réglementaires qui peuvent être très lourds et très compliqués à négocier. Et donc en réalité, pour nous, ce sont des acteurs stratégiques et en tout cas des acteurs avec lesquels nous souhaitons une plus forte collaboration. Aux États-Unis, si vous prenez l'exemple de ce pays où on vous dit constamment que les Américains ne veulent pas appliquer Kyoto et compagnie, simplement, si vous prenez l'effort des 12 plus grandes métropoles américaines aujourd'hui dans leur politique d'efficacité énergétique, mise en place, si vous comptabilisiez la totalité de ces efforts, eh bien, à elles seules, elles auraient rempli les objectifs qui auraient été assignés aux États-Unis s'ils avaient signé Kyoto. Donc, en passant par des interlocuteurs un peu décentralisés, on arrive à avoir des mises en œuvre bien plus rapides. Et donc, ils nous sont essentiels.
Alors, vous dirigez la division technologie, industrie, économie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette division et quel est son rôle au sein du PNUE?
Alors, premièrement, c'est la seule division du PNUE qui ne soit pas à Nairobi. C'est aussi la plus grosse. Et elle est née tout à fait par hasard. Elle est née cette année, cela fera 30 ans au mois d'octobre. Et en fait, ça avait été créé à la base comme un tout petit bureau de coordination pour gérer le problème Bhopal, qui avait été donc majeure catastrophe industrielle en Inde. Et l'idée, c'était simplement d'essayer de trouver une réponse à ces problèmes industriels. Et donc, c'est une équipe qui a démarré il y a 30 ans ici, avec 5 personnes. Aujourd'hui, cette division comprend à peu près 200, qui sont répartis sur 3 sites, Paris, Genève et Osaka au Japon. Et donc, cette direction, elle encourage les États, mais aussi les décideurs industriels, à élaborer et à mettre en œuvre des politiques, des stratégies qui soient plus propres, plus économes en ressources naturelles, qui permettent aussi de garantir une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques, par exemple, à limiter la pollution et les risques pour l'homme et l'environnement. Pour vous donner peut-être des exemples, je vais vous en donner 2 très emblématiques. Un projet que nous avons sur l'Irak, qui est un projet sur l'eau. Alors, le gouvernement japonais nous a donné une subvention de 11 millions de dollars pour traiter des questions d'eau sur ce qu'on appelle les marches arabes, ce qu'on appelle, nous, dans un langage imagé, les jardins d'Éden de l'Irak. Mais pas pour s'occuper des petits oiseaux, ni de la faune ou de la flore, qui n'est pas l'objectif de cette division, mais pour pouvoir donner à ces populations de l'eau propre et mettre en place des systèmes d'assainissement, mais tout ça bien entendu avec des technologies plus écologiques que les technologies habituelles. Donc c'est un programme que nous avons commencé l'année dernière, nous avons un an pour l'exécuter, et donc je me suis engagée à ce qu'au mois d'août de cette année, eh bien la population des marches arabes sera doté de stations d'épuration qui seront des stations d'épuration traitées par des boues en particulier, donc faciles d'accès, sur lesquelles on utilisera beaucoup de main d'œuvre très peu high-tech, hein, et aura de l'eau potable, parce que la remise en eau des marshlands en fait s'est faite un peu dans l'anarchie, et l'eau qui arrive aujourd'hui n'est pas de l'eau potable, et donc c'est tout le retraitement. Donc voilà un projet. Dans le même ordre d'esprit, après le tsunami, notre division est en train de développer un programme qui a été proposé au financement de plusieurs bailleurs de fonds, dont l'Union européenne, sur le traitement des déchets dans les pays affectés par le tsunami, parce que dans de nombreuses régions qui ont été touchées, vous avez des tonnes de déchets qui se promènent un peu partout. Et donc, nous avons proposé, même chose, de faire le nettoyage complet de ces sites. Et bien entendu, même topo, pas pour justement mettre les ordures n'importe où, mais pour traiter toutes ces ordures de façon propre et d'assurer, bien entendu, parce que pas simplement le nettoyage en tant que tel qui nous importe, mais aussi construire l'infrastructure qui sera celle que ces pays ou ces villes pourront garder ensuite pour leur traitement de déchets.
Fin de ce Fréquence Terre réalisé par Sandrine Anthem, Cyril Etienne et Arnaud Jouve, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dossier qui sera consacré aux OGM et toujours sur Internet à l'adresse fréquence.terre@rfi.fr. Bonne semaine à tous.